je commence le cours, il faut que je le que j'enregistre, hein, c'est ça?
Oui.
Alors attendez, pour enregistrer, je fais...
Il y a un bouton sur le c'est dans Teams.
C'est dans Teams.
Et... Alors je vais dans Teams. Attendez encore une minute. Je vais dans Teams et après...
Sur la page de... avec les autres.
Sur là où il y a le groupe.
Là, sur le côté, regardez la bande en colonne.
Ici
non, de l'autre côté. Appuyez sur la colonne. Sur la
il y a la colonne.
Ici?
Ouais. Oui.
Ah oui, ça y est, je me souviens. Il faut... Hop. Oh, cet ordinateur, ce n'est pas possible. Bon, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Alors là, je vais dans... dites-moi où je vais.
Le grand à côté.
Le carré.
Le carré. Voilà. Ah oui, ça y est. Et après, je vais dans More. Voilà. More. Record. Ça y est. On y arrive. Est-ce qu'il s'affiche le bouton rouge ?
Oui, c'est bon.
Où est-ce que vous le voyez ?
En haut à droite.
Ah oui, ici. Alors, avant qu'on commence, j'ai encore besoin d'une chose techniquement. Actuellement, pour ceux qui vont sur Arche, vous voyez quoi de mon cours ?
Non, on voit tous les chapitres.
Ah, vous voyez tout ?
Oui, non.
Alors, pas tout le monde. Certains, ils ont accès, d'autres, ils ont accès à tout.
Bon, alors attendez. Surtout, vous n'ouvrez rien. Je vais d'abord, parce que le cours, je le remodèle à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, surtout, ne regardez pas les items d'avant. Ça, c'est le cours que j'ai récupéré d'il y a un an. Le cours, il est modifié, enfin, sauf certains cours. Mais le cours, il est modifié à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, vous n'entrez dans les séances qu'à partir du moment où elles ont déjà été données en cours. Est-ce que je suis claire ?
Oui, mais simplement, je ne pense pas être le seul dans cette situation-là, mais je n'arrive pas à rentrer dans le cours tout court, pour le dire de cette façon-là.
D'accord.
C'est-à-dire que la clé ne fonctionne pas. J'arrive à une page où il y a trois cadrans pour positionner la clé et ça ne fonctionne pas. Je sais que d'autres, cela fonctionne. On était en train d'échanger sujet-là tout à l'heure. Mais voilà.
Alors là, je ne comprends pas parce que j'ai importé toutes les cordes d'étudiants, j'ai mis la bonne clé, tout a été revérifié par M. Mécène. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Là, donc j'ai pas de solution avant la semaine prochaine. La seule chose que je peux faire éventuellement pour ce qui est le délégué, éventuellement, je vous fais parvenir le PowerPoint et l'enregistrement de façon à ce que vous puissiez le redistribuer, au moins pour cette semaine.
Okay.
Parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont asynchrones, non ? Qui sont en asynchrone ?
Oui, il y en a quelques-unes qui sont en asynchrone.
Voilà.
Oui.
Bon, les problèmes vont se régler, hein, mais là, voilà. Nouvel ordinateur, plus impossibilité de se connecter au réseau d'ici, plus problèmes techniques sur les emplois du temps font que, voilà, on vous essuyait les plâtres. Désolé. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je reviens à entrer dans le Moyen-Âge et je remets le diaporama à partir du début. Donc c'est un cours de 20 heures qui donnera lieu en fin d'année à un oral, si ma mémoire est bonne. Ce cours, il a lieu en présentiel, en distanciel, en synchrone, en asynchrone, en audio, en vidéo. Et il y a un PowerPoint qui vous est donné à la fin de chaque cours. Alors le Moyen-Âge, d'abord j'espère que ça vous fait rêver. Hein ? Le Moyen-Âge, ça fait rêver. Ça fait rêver d'abord parce que vous regardez avec moi ces magnifiques enluminures qui nous font dire « Tiens, c'est le Moyen-Âge ». Alors, Moyen-Âge, c'est une vague notion que je vais essayer de découvrir avec vous dans le cadre de ce cours. Et surtout, c'est un monde qui est autre. Regardez, C'est un monde où l'on rentre comme dans un alphabet. Les lettres sont vivantes. Elles parlent de nos histoires, puisque à chacune de ces lettres est couplé un personnage. Vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui. À chacune de ces lettres est couplé un personnage. Hein. Donc, du Moyen-Âge, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est un livre. C'est comme un livre enluminé. C'est comme un alphabet vivant, puisque les lettres de l'alphabet ne sont pas lettres mortes, c'est le cas de le dire. Hein. Nous qui voulions un christianisme à réveiller les morts, le voici. Nous voilà devant un christianisme vivant. Hein. Ou même les lettres qui vont servir à faire les manuscrits sont des lettres qui sont habitées par nos vies. Et si elles sont habitées par nos vies, le christianisme étant enraciné culturellement dans une culture religieuse qui est essentiellement celle du christianisme, pour des raisons historiques que je vais vous expliquer, eh bien, en tout cas en Europe occidentale, qui est le cadre dans lequel a lieu ce cours, eh bien, ce christianisme, il est aussi, ce Moyen-Âge, il est aussi habité essentiellement par la culture chrétienne, même s'il rencontre dans ses marges géographiques, d'autres cultures, par exemple en Sicile, au XIIIe siècle, il y a une formidable rencontre avec la culture musulmane ou avec la culture juive. Mais pour l'essentiel, à 95% en Europe, le christianisme, la culture du Moyen-Âge est une culture religieuse qui est la culture religieuse du christianisme et qui habille et habite toute son identité jusqu'à dessiner en relief, sur les lettres, hein, des histoires humaines qui parlent de leur rencontre avec le Dieu du christianisme, puisque vous savez que le christianisme, je renvoie au cours de Bible de mes collègues, hein, le christianisme repose sur la notion d'une relation entre l'homme et son Dieu. Le christianisme, donc c'est un monde qui nous semble extrêmement mystérieux et lointain, par le mot Moyen-Âge déjà, dont le but du cours, je le répète, ça va être d'essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Et puis regardez, c'est un monde, on dirait un peu qu'on y voit la vie en rose, hein, comme dans ce château, où vous voyez des personnages caractéristiques de la vie médiévale, hein, puisqu'on a là ceux qui sont à cheval, le moyen de locomotion de ce monde, c'est pas la voiture, c'est le cheval, hein, je dis des évidences hein, pour l'instant. Mais pour vous faire rentrer dans la musique du Moyen-Âge, on s'y déplace à cheval, et si on s'y déplace à cheval, cela signifie qu'on a un certain train de vie. Parce que posséder un cheval, c'est avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se déplacer. C'est aussi un monde où la mode vestimentaire est une mode colorée. Les hommes du Moyen-Âge ne vivent pas dans le monde chromatique qui va s'installer en Europe occidentale à partir du XVIe siècle et qui est un monde où, par exemple, pour les hommes, puisque ce sont des hommes que vous voyez ici, un riche seigneur sortant de son château, eh bien, les hommes ne sont pas habillés en noir et en blanc, qui sont les codes chromatiques qui se mettent en place en Occident à partir du XVIe siècle. Donc, c'est un monde différent du nôtre. Nous sommes encore les héritiers du XVIe siècle, quelque part, en tout cas d'un point de vue chromatique, hein, puisque l'histoire elle-même a une couleur, et la couleur elle-même a une histoire. Et donc c'est un monde où, si les châteaux sont roses, c'est parce qu'ils font signe vers autre chose. Hein, parce que dans le réel, les châteaux ne sont pas roses. Hein. Alors certes, les églises étaient peintes au Moyen-Âge et on peignait les murs également des châteaux au Moyen-Âge, mais les représenter en couleur rose sur les enluminures, hein, c'est déjà nous indiquer que ce monde tend vers la couleur d'un autre. Hein. Et cet autre monde, c'est celui du paradis auquel les hommes du Moyen-Âge ne cessent de vouloir se relier. Alors, c'est un monde, j'ai parlé des hommes à cheval, c'est aussi un monde essentiellement paysan. Regardez ici les travaux des jours. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde essentiellement paysan ? La ruralité, elle va rester, si je m'en tiens à la France, l'apanage de la France jusqu'en 1914. Hein. Ça veut dire que vos arrière-grands-pères et le mien, et vos arrière-grands-mères cultivaient la terre. le monde européen était rural à 98%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une énorme majorité de la population, la majeure partie du temps consiste à labourer la terre pour tout simplement avoir à manger. Donc, on est dans un rapport à l'économie et aux échanges radicalement différent. On est aussi, quelque part, dans une économie du temps relativement très différente de la nôtre, parce qu'on voit le monde à hauteur de sillon. Et on voit le monde à hauteur de cheval. Ce qui signifie que, pour ce monde, il y a une forme de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'éloge de la lenteur. On ne se déplace pas, enfin, je dis encore une tautologie, mais on ne se déplace pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Ce qui signifie que pour rentrer dans le Moyen-Âge, il faut complètement se déprendre de nos attitudes culturelles contemporaines. Ça va, vous me suivez à distance?
Oui, très bien.
Oui, super.
Il faut totalement se déprendre de nos habitudes culturelles. Et c'est un monde qui est régi essentiellement par les travaux des jours et par les rythmes des saisons. Regardez ici ce calendrier solaire. Hein. Donc, on est régi par les rythmes des saisons. On se déplace à cheval, comme dans la diapositive à côté. Et puis, c'est un monde, regardez ici, on est toujours dans le calendrier des très riches heures du duc de Berry, qui étaient des calendriers enluminés effectués par des mécènes. Ce sont des manuscrits qui coûtent beaucoup d'argent. C'est un monde où on se relie à un ciel qui est ordonné. Regardez ici, ce monde, il est couronné par Dieu, et à côté, par un Dieu qui repose sur des anges qui sont ici tout rouges, ce sont les brûlants, les séraphins. Et regardez, ce monde est très ordonné. Vous voyez ici trois séries d'anges. D'accord ? Trois séries d'anges qui semblent comme installées dans une arène d'église. Hein? Donc le monde est ordonné comme une église et l'église est ordonnée comme le monde divin. Regardez, les anges, ils ont l'air d'habiter une cathédrale. Hein? On se croirait ici à Notre-Dame, dans les stalles des chanoines de Notre-Dame. Hein? Vous avez tous vu les photos de la réouverture de la cathédrale. Les stalles en bois ont été épargnées, j'expliquerai le terme chanoine plus tard, et regardez, les anges, eh bien, ils sont installés dans les stalles, comme les chanoines dans les stalles de la cathédrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour comprendre le Moyen-Âge, il faut comprendre la compénétration totale et profonde qu'il y a entre le monde du ciel et le monde de la terre. Vous me suivez? Compénétration totale du monde céleste et du monde terrestre. Ce qui veut dire qu'on oublie la voiture, on oublie les ascenseurs et on oublie aussi les mots laïcité, les mots république, les mots qui sont les mots d'aujourd'hui. On est dans un autre monde dans lequel je vous fais rentrer en vous faisant rentrer dans l'histoire du Moyen-Âge. Ce monde, il est ordonné, hein, avec... Il est ordonné alors par des rangs d'anges, qu'on appelle au Moyen-Âge des ordines, des chœurs. C'est un mot latin qu'on va traduire par chœur. Je vous apprendrai dans ce cours que l'ordre, le mot ordre, ordo, c'est la structure, c'est la cheville du Moyen-Âge. Le monde est structuré en ordre. Au Moyen-Âge, le monde est ordonné, ce qui donne aussi les ordres religieux, ce qui donne aussi les ordres de la société. Et à la tête de ces ordres, qui n'ont rien à voir avec le fait de donner un ordre, c'est complètement autre chose. L'ordo, c'est un principe de régulation entre le ciel et la terre. C'est ce qui permet au ciel d'être à la mesure de la terre et à la terre d'être à la mesure du ciel. Donc cet ordre, il est régi par le Dieu du christianisme, qui est ici Dieu le Père, représenté dans l'unité de sa personne divine, on n'a pas représenté la communion d'amour avec les autres personnes, c'est-à-dire la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. On n'a pas décrit la Trinité. Ça va pour le vocabulaire? Trinité, vous comprenez? Oui? Alors, si vous ne comprenez pas, astérisque, je le décris plus tard. C'est comme chanoine, je ne vous ai pas écrit ce que c'est, plus tard. Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde suit? Oui. Vous rentrez dans le Moyen-Âge. Vous avez oublié presque les ordinateurs, hein, parce que là, celui... d'ordinateur, je ne suis pas... Bon, et dans ce monde, eh bien regardez, les anges sont en train de chuter. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est en train de décrire ce qui s'est passé pour la pensée médiévale au premier temps des origines, c'est-à-dire au moment où les anges ont chuté sur la terre. Cette suite des anges, eh bien, installant en particulier le mystère du mal sur la terre, c'est-à-dire Lucifer. J'y reviendrai. Alors, dans ce monde, on marche à cheval. Regardez ici, ce sont les plus riches qui vont à cheval. Regardez la beauté des chevaux qui sont ici soigneusement tressés et ornés de guirlandes. Hein. On se trouve ici au déplacement d'un personnage noble et riche. C'est aussi un monde de la joie où on aime la bonne chère. Regardez ici, ça n'a pas l'air mauvais ce qu'il y a sur la table. On se déprend aussi de notre monde parce qu'au Moyen-Âge, on mettait la table, littéralement. C'est-à-dire qu'on installait des tréteaux sur lesquels on tendait un drap pour pouvoir installer des plats. Et ces plats, en général... Eh bien, ils sont creusés à même la table, hein, parce que c'est un monde qui ne connaît que tardivement, au XVe siècle, la fourchette et le couteau, hein, qui sont mises par 12. Parce que dans ce monde qui pense de façon chrétienne, eh bien, on va installer 12 couverts, donc 12 fourchettes, donc 12 couteaux, comme autant de 12 apôtres. Voilà. Donc le monde entier, vous voyez, est régi par une mesure qui nous échappe complètement, parce que nous ne vivons plus dans ce monde. Nous ne sommes plus régis par cette structure qui régissait l'univers du monde médiéval, jusque dans le plus petit détail de son quotidien. Ce qui rend intelligente l'image totalement. Pour entrer dans le sens d'une telle image, eh bien, il faut avoir à l'esprit tout ce qui régit cet univers. Donc un univers rythmé, je le disais, par les saisons et les jours. Hein. Regardez ici, on va passer de l'automne à l'été. On va passer, je les ai mises à l'envers, de l'été à l'automne et à l'hiver. Et l'hiver, eh bien, il fait très froid, comme aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus froid qu'aujourd'hui, parce que le monde médiéval connaît des périodes de glaciation intense qui reviennent de glaciation et de réchauffement intense. Hein. Donc la question du réchauffement climatique, ce n'est pas une question du 21e siècle, c'est une question du 11e siècle, hein, qui fait déjà beaucoup parler les intelligences médiévales. Parce que le monde médiéval connaît des périodes de réchauffement climatique et connaît des périodes de glaciation plus intenses, qui durent plusieurs siècles. Alors, nous habitons les mêmes paysages, et nous sommes régis par les mêmes climats, mais nous n'habitons plus le même monde culturel. Donc, pour introduire, on peut dire que c'est un monde autre. Hein, j'espère que je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche. C'est un monde autre qui fascine. C'est donc un monde et une culture et une histoire qu'il faut comprendre avec un seul mot à la bouche, qui est le mot « altérité ». Je rentre dans un autre monde. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de le comprendre avec mes catégories, je vais me casser les dents. Il faut que je quitte mes habits du XXIe siècle pour endosser ceux du Moyen-Âge afin de le comprendre. Que ce soit par les images, que ce soit par les récits, hein, pour essayer de rentrer dans ce monde qu'on appelle le Moyen-Âge. Attention, quand je parle du Moyen-Âge, j'utilise l'adjectif qui va avec. C'est-à-dire jamais le mot moyenâgeux ou moyenâgeuse qui n'est pas le vocabulaire usité dans les milieux scientifiques. Quand je veux parler de la période du Moyen-Âge, j'utilise désormais avec vous le terme de monde médiéval. J'utilise le terme de monde médiéval. Et le monde médiéval, c'est 1000 ans d'histoire, ce qui est énorme. C'est une séquence d'histoire d'une durée de 1000 ans. Je vais revenir sur la chronologie dans quelques instants. C'est une période de l'histoire qui se situe entre 500 et 1500. Donc c'est vaste, hein, 1000 ans d'histoire, vous imaginez ? C'est la distance qui nous sépare de l'an, qui sépare l'an 2000 de l'an 3000. L'eau a le temps de couler sous les ponts entre l'an 2000 et l'an 3000. Hein, ben imaginez, c'est la distance qui sépare l'an 1000 de l'an 2000. Alors, sauf que je me déplace encore 500 ans en arrière. C'est la distance qui sépare 500 de 1500, c'est-à-dire 10 siècles. C'est énorme. Alors, si j'utilisais le découpage historique classique utilisé par les historiens, dont le métier curieux est de sculpter le temps. Hein, le métier de l'historien, c'est de s'intéresser au temps et de comprendre le temps, de le sculpter, le comprendre. Le temps, c'est quelque chose qui se tricote. Hein. C'est comme les pelotes de laine, on peut en faire quelque chose, on peut faire plein de choses. Donc le métier de l'historien, c'est de s'occuper du temps. Alors, regardez comment les historiens découpent habituellement le temps en périodes, et ce depuis un temps qui n'est pas si vieux, 1820. Nous découpons le temps en périodes, Antiquité, Moyen-Âge, Europe moderne, Europe contemporaine, depuis 1820. Nous le découpons depuis 1820 parce que en 1820, c'est le moment où se mettent en place de nouvelles institutions et de nouvelles manières de penser l'histoire par commodité scientifique et par usage. Donc on se met à découper le temps en périodes. Mais il y a eu d'autres moments de l'histoire où on a découpé le temps en âge. Et puis il y a eu d'autres périodes de l'histoire où on a découpé le temps très différemment encore. Donc là, Antiquité, Moyen-Âge, Europe moderne et époque contemporaine, époque moderne et époque contemporaine, ce sont des blocs hein, qui découpent scientifiquement le temps. Pour l'Antiquité, entre moins 3000 et 476, je ne vous apprendrai rien. Pour le Moyen-Âge, entre 476 et 1492, je reviendrai sur ces découpages. Pour l'instant, vous retenez 500-1500. L'époque moderne, entre 1492 et 1789. Et l'époque contemporaine, de 1789 jusqu'à nos jours. Alors, ça branle un peu dans le manche, puisque les historiens parlent aujourd'hui d'une époque post-contemporaine. Comme si il y avait maintenant une bascule qui était en train de s'opérer entre l'époque contemporaine et une autre époque à venir dans la bascule de laquelle nous sommes peut-être et que certains scientifiques baptisent de période post-contemporaine. J'en viendrai sur ces contextes. Oui.
On ne parle plus donc de Renaissance juste après le Moyen Âge.
La Renaissance, je vous en reparlerai, Alors, la Renaissance, on parlerait aujourd'hui d'une première modernité, et sur le terme de Renaissance, je reviendrai en son temps, en son heure.
Hein.
Mais
merci.
La Renaissance, c'est une étiquette historiographique sur laquelle je serai amenée à revenir. Donc pour l'instant, vous oubliez le mot Renaissance et vous oubliez le mot étiquette historiographique. J'y reviendrai.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, les hommes du... Ça veut dire que cette période est tellement longue que pour vous donner encore un autre curseur, on pourrait dire que les hommes du XXIe siècle sont aussi proches de Jeanne d'Arc que Jeanne d'Arc l'était de Charlemagne, pour prendre des figures un peu connues. Charlemagne, ben, ça vous dit quelque chose, parce qu'il y a la petite chanson que vous chantiez peut-être quand vous étiez enfant. Charlemagne qui a inventé l'école, on verra pourquoi. Et Jeanne d'Arc, tout le monde connaît ici ou pas ? Oui ? Jeanne d'Arc, qui fut brûlée en 1431. Ça vous donne un autre curseur. Ça veut dire qu'on est aussi dans des mondes différents. Alors, c'est un monde régi aussi par une culture visuelle très différente de la nôtre. Hein, ici, une représentation de la Mère de Dieu dans une icône du 7e siècle. Hein, est-ce que je vous gêne, par contre, peut-être ? Pour voir les diapos ? Non ? Je vous gêne ?
L'écran est titanesque.
Oui, il est très bon.
C'est vraiment...
Donc je vous dérange pas ?
Ah non, pas du tout.
Parce que je me suis pas rendu compte. Donc même si je suis là, je ne dérange pas.
Ah non, du tout.
Alors, vous avez le temps de compte. Alors, par contre, ce que je me rends compte, c'est que j'ai certaines diapos dans les écrans d'avant, on ne voyait pas qu'elles étaient pixelisées à ce point-là. Vous voyez beaucoup plus les pixels,
non ?
Non
plus.
Non ?
Bah,
il y en a certaines qui sont de moins bonne qualité.
Non, mais là, ça va.
Voilà. Dans l'ensemble, ça va ?
Bah oui, c'est très bien.
Bon. Donc, je vous laisse admirer cette peinture. C'est un monde où le rapport à la culture visuelle est aussi très différent du nôtre. Aujourd'hui, nous allons au cinéma, nous regardons des vidéos. Dans le monde médiéval, on va regarder des icônes, par exemple, qui viennent tout droit du monde, d'une autre partie de l'Europe chrétienne, qui est l'Europe byzantine, qui est la culture byzantine. Voilà, ici une peinture de 1431. Dû au peintre Fra Angelico, qui représente là aussi la Vierge. Donc je serai amenée à vous reparler de cette figure majeure de l'imagier chrétien. Et donc on est dans un monde d'une grande intensité visuelle et chromatique. C'est un monde très coloré, le monde du Moyen-Âge, vous vous en êtes rendu compte. Et c'est un monde très coloré aussi, aussi bien dans le quotidien que dans la peinture. On a le visuel qu'on mérite. Donc c'est un monde où les principales figures de l'imagier religieux sont représentées. On représente Dieu et ses saints. Et on représente aussi la Mère de Dieu qui est la Vierge Marie. Alors ici aussi des peintures italiennes des années 1330, Simone Martini, Taddeo di Bartolo, Simone Martini encore, où vous voyez ce mélange d'or et de couleurs et de lumière qui caractérise aussi le Moyen-Âge. Donc, pour faire court, dans ce monde médiéval, on voit Dieu en couleur et on le voit en or. À votre avis, comment on verra le diable dans ce monde, le diable issu de la chute des anges, de Lucifer, tel qu'il est pensé dans les relectures chrétiennes du 6e siècle. Parce que la chute des anges, c'est un motif qui apparaît au 6e siècle. On verra Satan de quelle couleur ? Satan qui est l'autre nom donné à Lucifer par les hommes du Moyen-Âge. Ou qu'on appelle encore le tentateur. Comment on le verra ?
En rouge ?
Non.
En noir ?
Non.
En blanc ?
J'ai dit qu'on voyait Dieu en couleur et en or.
Rouge.
Ben non. Alors en couleur et en or. Quelle est la couleur qui se rapproche le plus de l'or ?
Le jaune.
Le
jaune.
Oui, le jaune. Donc le jaune, c'est quoi ? C'est un or affadi. C'est un or qui ressemble à l'or, mais qui n'en est pas un. D'accord ? Donc regardez ici le chromatisme de ces couleurs qui tendent vers de plus en plus de lumière. Le jaune tend vers plus d'or à partir du moment où on est vers Dieu. Mais tout ce qui va être du côté du jaune, c'est ce qui va être du côté du diable. Donc par exemple, quelle va être la couleur chromatique distinctive pour désigner les groupes pensés comme étant les ennemis des chrétiens au Moyen-Âge ? Qu'est-ce qu'on va inventer, notamment au XIIIe siècle ? Pour désigner le peuple juif.
Le pâle. Le jaune pâle.
J'entends pas, pardon.
Pardon, je disais le jeune Pan, mais j'ai...
Oui, ben, qu'est-ce qu'on va créer au XIIIe siècle ?
L'étoile.
Saint-Louis.
L'étoile jaune.
Oui, on va créer l'étoile jaune pour distinguer, par exemple, le groupe juif. Parce que le jaune, c'est la couleur chromatique qui se distingue, qui se rapproche de l'or, mais en même temps qui n'est pas de l'or. Et on va s'en servir pour désigner eh bien, ceux qui sont présentés comme les ennemis du peuple chrétien, dans certains contextes culturels chrétiens du Moyen-Âge, hein, pas tous évidemment. Mais vous voyez, ce que j'essaye de vous faire sentir dans cette introduction, c'est que ce monde est intelligent, il est ordonné, rien n'est gratuit. Si on met du jaune sur les peuples identifiés comme étant les ennemis du groupe dominant, culturellement dominant du christianisme, eh bien c'est parce que derrière, vous avez tout un système mental qui l'explique. Vous comprenez ? Donc rien n'est gratuit, rien. Donc quand on travaillera sur des textes, parce que je vais vous faire travailler sur des textes, aucun mot ne sera là au hasard. Et on rentrera dans un monde intelligent du commentaire de documents. Parce que qu'est-ce que c'est que le métier de l'historien ? C'est de remonter aux sources, qu'elles soient iconographiques ou textuelles. Le métier de l'historien, c'est de faire de l'histoire. Ce que je suis en train de vous raconter, je ne l'invente pas. Hein ? C'est le travail de tous mes collègues qui me permet de vous raconter ça, en particulier sur les couleurs. J'utilise le travail d'un historien qui s'appelle Michel Pastoureau, hein, qui vient d'ailleurs de publier un livre sur la couleur rose. Tout est intelligent, rien n'est gratuit. On remonte, on fait de l'histoire en touchant aux sources qui sont, par exemple, des sources du XIVe siècle. Comme ici, c'est trois peintures de la Vierge Marie. Et qu'est-ce que c'est qu'une source historique ? Eh bien, c'est tout simplement un document qui va nous permettre de boire à la source. Hein ? Ici, je bois à la source du XIVe siècle pour remonter aux sources. C'est-à-dire à ce qu'il y a derrière cette peinture et au système culturel qu'il y a derrière cette peinture, par exemple. Et donc, on travaillera sur des documents et quand on en fera le commentaire, ça ne sera pas pour faire un travail pesant et gratuit et qui vous fait pousser des soupirs comme moi avec l'informatique, mais ça sera pour vous faire entrer dans un monde enchanté, hein, qui est celui d'un monde de cohérence, qui est celui d'un monde du sens. Et au plus, on acquiert une culture, c'est ce que vous faites à l'université en venant ici dans le département de théologie, vous accédez à une culture religieuse, qu'elle soit des trois monothéismes, plus vous possédez cette culture, et plus vous pouvez rentrer dans les textes et les documents des périodes historiques qui vous sont présentées. Ça va ? Pour ceux qui sont à distance, ça va aussi ?
Ça va aussi, oui.
Oui, super.
Et c'est un monde, je suis toujours dans l'introduction, hein, c'est un monde extrêmement cohérent. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ordo. Hein, je vous fais presque tout le cours en un cours. Hein, tellement c'est cohérent. Je n'ai pas beaucoup à me forcer. Eh bien, regardez, dans ce monde, divisé, on est aussi structuré par la notion d'ordre. L'ordre, il régit la Terre, comme il régit le ciel, principe de régulation du monde médiéval. Le ciel et la terre sont en permanence conjugués, ordonnés, assortis l'un à l'autre. Et donc, dans les enluminures, on va représenter les principaux ordres de la société, qui ne sont pas simplement des ordres religieux. Hein, et parmi eux, vous reconnaissez ici ceux qui montent à cheval et qui font la guerre, parce qu'ils portent le carquois, le haume, et ils sont habillés pour aller à la guerre. Vous reconnaissez ici celui qui a une pelle et qui vit selon le rythme des travaux et des jours, qui est le paysan, pour faire large. Et puis ici, regardez, à la tonsure des cheveux, enfin à la tonsure du crâne, vous reconnaissez un clerc, c'est-à-dire un homme d'église. Le clerc, enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que le clerc peut aussi désigner un personnage qui s'occupe des documents administratifs. Mais la plupart des clercs étaient des hommes d'église. sur le vocabulaire qui est complexe du Moyen-Âge, je vous introduirai peu à peu. Et on est toujours dans ce monde coloré que je ne cesse de vous écrire. Coloré, mais regardez, le paysan, il est vêtu couleur de terre. Parce que ça coûte très cher d'avoir des vêtements de couleur. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer chez le teinturier. Et s'il faut passer chez le teinturier, quel est le personnage divin qui passe chez le teinturier aussi ? L'homme va chez le teinturier quand il est riche. Par exemple, l'homme qui fait la guerre, il est bleu. Et lui, regardez, il a un vêtement couleur de terre, il n'est pas passé chez le teinturier. Qui va chez le teinturier ? Quel est le personnage divin qui va chez le teinturier ? Bah, Dieu ! Regardez. Là, il est habillé tout en rouge et tout en bleu. Hein ? Dieu va chez le teinturier. Je plaisante pas en disant ça. Dieu va chez le teinturier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où il se rend visible, puisque dans le christianisme, Dieu s'est fait homme pour se rendre visible, hein, ça veut dire qu'on va le voir habillé en couleur. Ça veut dire que le mot central du christianisme, qui est l'incarnation, ça va ? Pour tout le monde, le mot incarnation ? Oui ? Incarnation, ça désigne dans le christianisme la théologie de quoi ? C'est quoi l'incarnation ?
La matérialisation de Dieu.
Alors, dites-le autrement. Alors, chers étudiants, s'il vous plaît, c'est très bien la manière dont vous me répondez, mais à partir du moment où vous êtes en histoire avec Madame Barnet, vous allez apprendre, qui est très exigeante sur l'emploi du vocabulaire, vous allez apprendre à être très précis dans le vocabulaire. On n'est pas dans la matérialisation de Dieu, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait être un fantôme. Or là, on serait chez les gnostiques. Pardon ?
La figuration ?
Non plus. Non plus. On ne peut pas être dans la figuration parce que le mot figure, ça désigne exactement le fait de relationner l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc on ne peut pas être dans la figuration.
Dieu qui s'est fait chair ?
Oui, on est donc dans le...
représentation ?
Non, on n'est pas dans la représentation. On est dans l'incarnation. Hein. Donc quand on dit que Dieu va chez le teinturier, ça veut dire qu'il s'incarne de couleur. Il s'incarne. Il s'incarne, regardez ici, les joues de la Vierge. Elles sont de quelle couleur ? Vous les voyez ? Enfin, je ne sais pas si vous me voyez à distance, hein. Mais regardez ici. La peau est rose, parce que naturellement, ici, on est rose. Mais pas seulement. Dans les peintures du XIVe siècle, les peintres sont théologiens. Les peintres sont théologiens. Donc, quand cette peinture, ce n'est pas simplement une peinture historique, c'est une peinture théologique. Elle rend visuel le mystère divin, qui dans le christianisme est le mystère du Dieu qui s'incarne. Et Dieu s'incarne en couleur parce qu'il passe chez le teinturier. Ça veut dire qu'il devient en couleur, comme les hommes. Et regardez, sur certaines peintures, elle est comment cette peinture qui représente une discussion entre un chrétien et un juif ? Elle est achrone. Sans couleur.
Hein. Madame, ce que vous décrivez là, ça s'applique à toute la période ?
Non. Je l'ai appliqué au XIVe siècle. Ah, alors, c'est... vous dites quelque chose de très important, monsieur. Il n'y a jamais de généralité en histoire. Jamais. Donc là, je vous ai parlé d'une peinture du XIIIe siècle. Enfin, du XIVe siècle, pardon. 1333, c'est le début du XIVe siècle. Je fais un excursus. Tous les étudiants sont familiers avec le compute, avec la chronologie. Quand je dis 1200, on est au XIIIe siècle, ça va ? Quand je dis 1400, on est au XVe. Ça va pour tout le monde, ça ? Oui ?
Oui, totalement.
Voilà. Eh bien, regardez sur cette peinture, la discussion entre un chrétien et un juif, on n'est pas dans un monde en couleur, parce que Dieu n'existe pas dans le judaïsme. Dieu incarné n'existe pas dans le judaïsme. Le Dieu fait chair n'est pas le Dieu du judaïsme. Je crois que j'ai fait une litote. J'ai dit Dieu n'existe pas dans le christianisme. Dieu n'existe pas dans le Dieu incarné n'existe pas dans le judaïsme. Je vais y arriver. Donc le Dieu ne peut pas être en couleur. Il ne peut pas passer chez le teinturier. Parce que c'est ainsi qu'on se représente l'imagier chrétien, hein, le plus riche possible. Ça va ? Vous n'êtes pas perdu ? Ça va ? Oui ? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire toucher ? L'incroyable cohérence du Moyen-Âge. Je suis en train de vous la faire toucher du doigt. Ça veut dire que quand on est au Moyen-Âge, on est dans un monde d'une richesse et d'une complexité inouïe.
S'il vous plaît.
Oui.
Ce que cela me dit, là, c'est que, au fond, il y a un langage au-delà du langage.
Oui, tout à fait.
Un langage par image et un langage symbolique, avec sans doute des codes que chacun connaissait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde avait accès à ces images ? Et est-ce que tout le monde avait accès à ce langage ? Car sur l'enluminure magnifique qui représente les trois ordres, on voit le personnage sans couleur, qui est l'homme qui travaille la terre. Je me demande s'il avait accès à ce langage et à cette symbolique, sauf au moment où il pouvait aller dans l'église ou dans la cathédrale et y voir les intérieurs en polychromie.
Alors, votre question, elle est tout à fait légitime, mais les hommes sont les contemporains de leur temps. C'est-à-dire que nous, nous savons l'histoire parce que nous sommes leurs successeurs. Nous pouvons réfléchir à la façon dont ils se représentaient eux-mêmes. Mais eux-mêmes, ils vivaient l'histoire. Ils étaient les contemporains de cette histoire. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes les contemporains du XXIe siècle. Nous vivons l'histoire, nous ne la commentons pas, nous la vivons. Un jour, les historiens se pencheront sur la manière dont nous étions en société dans les années 2025. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose pour l'homme du Moyen-Âge. Par contre, il est cette culture. Il ne se pose même pas la question, il y appartient. Mais comme aujourd'hui, il y a une hiérarchie de la société, il y a ceux qui occupent certaines fonctions et ceux qui n'en occupent pas d'autres. Donc c'est évident que l'homme de la terre qui n'a pas accès... ne serait-ce qu'au monde du livre, hein, qui ne sait ni lire ni écrire, même si, là aussi, il faut en revenir sur des idées fausses. Hein, les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas des illettrés et les enfants du village apprenaient à lire sur le livre des psaumes, hein, qui est un des livres bibliques. Donc les hommes n'étaient pas illettrés, n'étaient pas cultivés, et étaient loin d'être illettrés, pardon, et étaient loin de ne pas être cultivés, c'est le cas de le dire. Par contre... je reviens à cette histoire de couleur où le manant porte une chemise qui n'est pas teinte parce qu'il n'a pas assez d'argent. Regardez, l'homme d'église, il a un vêtement de la même couleur que le manant. Celui qu'on appelle le manant, du latin maneo, c'est celui qui reste, c'est-à-dire qui habite la terre, le paysan. Et l'homme d'église, il a aussi un vêtement coloré, donc il a de l'argent, même si ce n'est pas le cas de tous les religieux. C'est d'ailleurs ce qui va causer en partie la réforme. Parce que le bas clergé n'aura, ce qu'on appelle le bas clergé, je reviendrai sur ce vocabulaire, n'aura pas assez d'argent. Et donc va perdre beaucoup de choses, enfin n'aura pas assez d'argent pour se cultiver, pour accéder à la culture, et puis ça va causer quelque part la perte d'un certain christianisme. Mais regardez, il vient toucher la terre aussi, pour d'autres raisons que celles du paysan. Parce que quand on est un religieux, eh bien, on vient toucher le sol. On est dans le latin humilis, l'humilité. Et donc, une partie de la fonction du religieux, c'est pas simplement d'être dans les honneurs. Une partie de l'Église vient toucher exactement ce que désigne l'incarnation, hein, c'est-à-dire être au plus près du sol, être au plus près des hommes, être au plus près de la terre. Humilis, hein, ce que désigne encore le vêtement du personnage ici. Donc, voilà, en quelques images, la véritable fascination que représente le Moyen-Âge, et aujourd'hui, c'est un véritable engouement, hein, dans le sens où, eh bien, on va aux fêtes médiévales, hein, on va à la fête des plantes médiévales, on croit aux vertus médicinales médiévales. Vous avez sans doute entendu parler de Hildegarde, hein, et de ses plantes, par exemple. Mais on va à des fêtes médiévales parce que ça fascine. Ils n'étaient pas habillés comme nous, ils ne mangeaient pas comme nous. Le Moyen-Âge, ça représente une espèce de paradis perdu. Hein, ça, c'est exotique. À tel point qu'on parle de, attention, je vais mélanger les temps, de modernité médiévale. Et j'essaierai de vous expliquer ailleurs autrement ce que désigne le terme de modernité médiévale. Je vous ai dit tout à l'heure que le propre du métier de l'historien, c'était de réfléchir au temps. Donc j'en viens à ce que je voulais dire au point de départ, c'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est une étiquette, attention à ce que je vais dire, j'ai pas mis le mot sur la diapo, c'est une étiquette historiographique. C'est une étiquette historiographique, vous m'entendrez souvent le dire. Étiquette historiographique. Qu'est-ce que ça veut dire historiographie littéralement ? Ça veut dire, c'est un terme issu du grec, ça veut dire écrire l'histoire. Historiographie. Écrire l'histoire. Le métier de l'historien, c'est de réfléchir au temps, mais aussi de raconter le temps, c'est-à-dire de l'écrire. Historiographie. Donc tout à l'heure, j'ai eu une question sur la Renaissance. Eh bien, l'étudiant qui m'a posé cette question, il est tributaire d'une étiquette historiographique. Il y a un moment, des historiens ont nommé Renaissance la bascule qui va du Moyen-Âge à l'époque moderne. De même, et ça va être l'objet de la suite du cours maintenant, on va nommer Moyen-Âge un temps, c'est-à-dire qu'on va utiliser une étiquette historiographique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais je termine juste sur la question de l'engouement. Hein, l'engouement ne date pas d'aujourd'hui, il date aussi d'hier. Regardez ce que dit l'historien Jean-Louis Benoît sur la fascination médiévale. « La fascination exercée par le Moyen-Âge sur nos contemporains s'explique en partie par son lien avec l'Église. L'homme post-moderne, vivant dans un monde en quête de sens, se tourne avec nostalgie ou avec horreur vers une époque bâtie sur les croyances chrétiennes. Hein, » puisque, je vous le répète, culturellement, le Moyen-Âge est chrétien. On ne peut pas comprendre le Moyen-Âge sans comprendre sa culture qui est chrétienne à 99%. Donc ça serait faire un contresens que de ne pas, le comprendre. Ce n'est pas une projection ou une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité culturelle. Puisqu'ici, il n'est pas question de religion autrement que sous la forme de la culture. On est à l'université, on n'est pas là à un autre niveau que celui de la culture. Et donc, derrière ces innombrables fêtes médiévales, il y a la nostalgie de l'homme pour un monde qui était un monde de sens.
Excusez-moi. C'est juste une curiosité, mais est-ce que cet engouement pour le Moyen-Âge et cette image totalement idéalisée, on va dire, ou pas, ça va dépendre du point de vue, serait pas né pendant la période du romantisme ou c'est...
Alors, j'y viens, monsieur. Qui est la personne qui me parle parce que je ne vous vois pas.
Benjamin, pardon, excusez-moi.
Ah, d'accord. Alors, oui, parce que je ne vous connais pas. Hein, que je prenne Attendez, je regarde un peu vos noms. D'accord, je ne vous connais pas du tout. Voilà, très bien, bonjour. Alors, reposez-moi votre question, pardon, parce que du coup, je l'ai oubliée.
Pardon, excusez-moi. Je disais, le lien avec ce fantasme positif ou négatif du Moyen-Âge, il est né à partir du romantisme du 19e siècle.
Oui, alors j'y viens.
D'accord.
J'y viens, monsieur. Enfin, j'y viens aujourd'hui ou la semaine prochaine, si on n'a pas le temps de terminer. ce que j'ai prévu puisque j'ai commencé en retard. Hein ? Toc.
Souci, désolé.
Non, non, je vous en prie. Vous n'avez pas à être désolé, c'est moi qui est plutôt à l'être. Tout le monde m'entend ? Là, j'ai perdu les étudiants ?
On vous entend.
Non, c'est bon.
On vous entend.
Non, parce que je vous vois plus, hein, c'est pour ça. Parce que quand je projette l'écran, j'ai un écran noir et je ne vois plus du tout. Je vois même pas votre... je vois même pas le petit logo avec les noms. C'est pour ça que je vous demande toujours si vous êtes là, parce que je ne peux pas le voir. Donc, je maintiens en suspens votre question pour l'engouement du Moyen-Âge né à l'époque romantique. On va y venir dans quelques instants. Et donc, cette époque, elle est bâtie sur les croyances chrétiennes. Alors, dans un monde extrêmement structuré, que ce soit dans la société ou que ce soit dans l'Église elle-même. Hein. Regardez ici cette magnifique peinture représentant l'intérieur d'une Église. Et à l'intérieur de l'Église, on a représenté un événement dont je serai amenée à vous reparler, qui est le Concile de Clermont en 1095, concile où le pape va décider de la naissance de la croisade, terme sur lequel je reviendrai également. Tout ça, ce sont des étiquettes historiographiques. Mais regardez, hein, je reviens à l'énorme ordonnance de cette société, hein, où l'intérieur de l'Église, il est comme l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire une société très structurée. Hein, vous voyez aussi les personnages qui sont assis en rang. C'est une société extrêmement ordonnée. Pourquoi ? Parce que dans cette société, chacun est à sa place, chacun tient un ordre ou un rang, et ce rang désigne quelque chose dans le monde tel qu'il est pensé théologiquement. Théologiquement, ça va ? Vous avez un cours de M. Feneuil sur le terme. Alors, théologie, comment vous pourriez me le définir en une ligne ? En une ligne ?
C'est l'étude de religion sur la foi. La question de la foi ?
Là ?
Question de la foi.
Alors. Oui, vous avez raison, mais encore plus simplement.
Le discours sur Dieu.
Ouais, discours sur Dieu. Hein. C'est-à-dire, la théologie, c'est avoir une pensée sur Dieu. Hein, cette image, elle est théologique parce qu'elle dit quelque chose de la pensée sur Dieu de celui qui l'a peinte. Hein. En même temps qu'elle reflète la théologie médiévale sur la manière de penser l'ordonnance de l'Église. Et qui dit ordonnance de l'Église, dit ordonnance du ciel et ordonnance de la terre. Et cette ordonnance, elle se reflète jusque dans la hiérarchie de l'Église elle-même. Ce qu'on appelle l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église bâtiment. Ici, vous êtes dans une Église du XIe siècle, même si la peinture a été faite au XIVe. Et on est dans une Église. Hein, mais en même temps, l'Église, c'est quoi ? Ecclesia, c'est... l'assemblée des vivants, hein, c'est ceux qui sont installés sur les chaises. Alors, cette église, elle est structurée par une liturgie. Le mot liturgie, ça va ? Mettez-le entre guillemets. Hein. Liturgie, c'est-à-dire... Qui peut me définir le mot liturgie ?
Est-ce que c'est pas des chants ?
L'ensemble de rites et de prières ?
Oui. Oui, oui.
Bah, c'est tout l'ensemble de l'organisation lors de la consécration, la cérémonie religieuse qu'est la messe. Mm-hmm. Et c'est la liste des choses à faire. Mm-hmm.
Très bien. La liturgie, c'est ce qui va... c'est ce qui désigne... oui. Non, vous vouliez me dire quelque chose ?
Non, je t'en parlerai
l'étymologie. Eh bien, allez, j'allais vous le dire. Cherchez, c'est pas moi qui vais travailler là. Cherchez-moi l'étymologie du mot liturgie.
Littéralement, grec, liturgia, fonctionnement, fonction.
Voilà. Donc, la liturgie. La liturgie, c'est ce qui régit le fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire. Ben, tout ce qui. C'est ce qui régit le fonctionnement du rapport entre l'homme et Dieu. Or, au Moyen-Âge, ce rapport entre l'homme et Dieu, il est aussi ordonné que l'est le reste de la société. Et il est notamment ordonné par le rituel de la messe et de l'Eucharistie. Mettez des guillemets, hein, je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Donc ici, on a affaire à une miniature qui représente une liturgie de couronnement et de consécration des rois de France. Mettez des astérisques, je ne l'explique pas maintenant. Mais tout est ritualisé dans ce monde, et notamment à l'intérieur de l'Église. J'ai parlé du roi de France. Ça veut dire que la structure politique est enchâssée dans la structure religieuse, comme le ciel est enchâssé dans la terre et la terre dans le ciel. Jusque dans le rituel qui désigne qui est le roi. J'en dis pas plus aujourd'hui, hein. Mettez des astérisques. Mettez aussi un astérisque sur le mot évêque, j'y reviendrai plus tard. Je ne peux pas vous expliquer tout le vocabulaire religieux aujourd'hui, parce que vous allez commencer à fatiguer. Ça va, je ne vous en dis pas trop pour une première séance ?
Ça va, super.
Ça va.
Bon. Alors, voilà une image qui vous rappelle peut-être une image qui est passée à la télévision il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ont regardé... Hein?
On dirait, ça me fait penser à Saint-Nicolas. Mais...
Oui, Saint-Nicolas, très bien. Puis qui d'autre? Est-ce que vous avez regardé... Est-ce que vous avez regardé les cérémonies d'ouverture, de réouverture de Notre-Dame?
Non.
À la télé? Personne?
J'ai regardé que
la... Bon. Bah, si vous aviez regardé à la télé la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame, vous auriez vu l'évêque qui tape sur la porte avec sa croix pour lui demander d'entrer dans l'église. Et donc ici, eh bien, on a une image immémorielle, hein, puisqu'elle date, c'est une miniature qui date du XIIe siècle et qui nous représente un des personnages centrales du Moyen-Âge, celui sans lequel le roi, par exemple, au XIIIe siècle, ne peut pas gouverner, qui est l'évêque, épiscopus, caractérisé par son bâton recourbé et par sa mitre, qui est le chapeau qu'il porte sur la tête. Alors, je rentre seulement dans la première partie. Donc, j'ai fait une très très longue introduction, mais voilà. Elle est importante, l'introduction que je viens de vous faire, parce qu'elle vous a dit peut-être l'essentiel du cours. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué?
Non, ça va, très bien.
Non, ça va.
Ça va
pas.
Pas
bien.
Ça va aussi pour vous? Est-ce que je vais trop vite? Je ne sais même pas demander.
Non, c'est très bien.
Non, au contraire, très bien.
Bon. Alors justement, on va essayer de comprendre dans cette partie que viennent faire les romantiques avec l'engouement du Moyen-Âge. Donc hein, je reviens à cette idée que le Moyen-Âge, c'est d'abord une période de l'histoire. Alors, on va relire l'histoire du terme Moyen-Âge, hein, qui renvoie déjà à un découpage du temps qui n'est plus celui de 1820, mais qui est celui d'avant 1820, puisqu'on découpe on y découpait le monde en âge. Quelles sont les dates limitrophes? Alors, pour l'historiographie classique, c'est-à-dire pour la manière d'écrire l'histoire, des historiens, alors on va dire les historiens du XIXe siècle, pour faire large, que ce soit les historiens allemands, les historiens italiens, les historiens français. Pour cette historiographie classique, le Moyen-Âge est la période qu'arbitrairement, il découpe entre la fin de l'Empire romain d'Occident, 476, donc vous voyez déjà que ce découpage n'est pas celui des âges, qu'on va qualifier de moyen, je n'ai pas encore expliqué pourquoi. Donc, on va de la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 à la fin de l'Empire byzantin conquis par les Turcs en 1453. Alors déjà, ce découpage, on voit qu'il est arbitraire parce qu'il est structuré à une définition politique du Moyen-Âge. La fin d'un empereur et la fin d'un empire. La fin d'un empereur, la fin d'un empire. Puis alors là, ça se complique, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de roi. C'est quoi la différence entre un empire et un roi ? On verra que la différence, elle est religieuse. C'est une différence de sacre. Je ne l'explique pas aujourd'hui. En tout cas, bon, si on a choisi ces dates-là, c'est qu'elles paraissent cohérentes pour désigner le fonctionnement et la structure d'un monde, on va dire, d'une certaine manière, régi par cette compénétration entre le ciel et la terre et régulé par la culture chrétienne. Alors ici, donc, je vais m'en tenir pour le Moyen-Âge de ce cours, je vais m'en tenir essentiellement à la partie européenne, hein. Donc essentiellement centré sur la France, l'Espagne, une partie de l'Europe centrale, mais je ne vais pas du tout aborder ce qui est en grisé ici, c'est-à-dire le monde byzantin. La culture du monde byzantin au Moyen-Âge fera l'objet d'un autre cours en licence 3, sauf si les maquettes changent d'ici là. Alors voilà pour l'historiographie classique. Mais si je me place dans le cadre de l'historiographie chrétienne, c'est-à-dire du côté des écrivains chrétiens qui ont écrit l'histoire, mais je pourrais aussi me placer du côté de l'historiographie musulmane, du côté de l'historiographie juive, ou du côté de l'historiographie gnostique. Hein, je pourrais me placer du côté de toutes les historiographies. Pour le christianisme, ad intra, c'est Constantin le Grand qui rend licite le christianisme en 313, alors au terme d'une époque très compliquée qui voit le passage de l'énothéisme au christianisme. Vous avez vu ça avec mes collègues. Et le manifeste de Luther en 1517 qui marque la date de naissance du protestantisme. Alors, le terme est mal choisi, hein. J'aurais dû écrire « réformation », qui est le terme de, qui est l'étiquette historiographique actuelle avec laquelle on désigne le christianisme du XVIe siècle issu de la réforme de Luther. Donc, on est dans une chronologie chrétienne qui relie l'histoire à partir de la naissance du Christ. Donc ce qui est marquant pour elle, c'est quand le monde est-il devenu chrétien, et pas tellement comment le monde est devenu chrétien. Hein, et pour ce christianisme-là, c'est avec Grégoire Constantin le Grand que le monde devient chrétien. Alors, ce qui est une lecture de type apologétique, hein, puisque... dans une période de l'histoire comprise vraisemblablement autour des années 320, Constantin fait sans doute le choix politique du passage, du choix d'une religion qui n'est pas celle de son père, puisqu'il ne fait pas le choix d'une religion solaire, mais le choix de la religion chrétienne, tout simplement parce qu'il y a un lobbying chrétien dans la capitale et qu'il va pouvoir s'appuyer sur elle. Puis c'est aussi une manière de se démarquer de ce qui se passe en Orient. Peut-être aussi Constantin le Grand a-t-il rencontré sur sa route, alors qu'il a fait des choses, il a quand même tué sa femme, il commence à rencontrer le discours de la morale chrétienne et de la pénitence qui commence à se mettre en place à ce moment-là. Hein. Donc on ne saura jamais rien du choix intérieur de Constantin sur ce qui a motivé profondément sa décision de faire pour son empire le choix de cette religion, mais toujours est-il que ce choix introduit pour les écrivains chrétiens, eh bien, la volonté d'une chronologie chrétienne qui part de la naissance du, Christ et qui commence avec Constantin le Grand à habiter le monde. Et donc, dans cette chronologie-là, le monde médiéval commence véritablement avec la fin de du dernier empereur qui s'est défait du christianisme.
S'il vous plaît.
Oui.
Alors, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est intéressant historiquement, mais en
tout cas... Tout est intéressant.
Pour une réflexion sur ce sujet-là, c'est tout de même assez étonnant que concernant Constantin, on ne lui accorde pratiquement jamais la sincérité et pratiquement toujours l'opportunisme.
Alors...
ça pose question, quoi. En tout cas, moi, oui.
Alors, vous avez
une sacrée question.
Vous avez raison, mais si vous voulez, ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'un commentaire de document. On travaillera sur les textes historiques qui racontent comment Constantin a fait ce choix. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans l'interprétation de quelque type qu'elle soit, hein, qui ferait supputer à Constantin une conversion dont nous ne savons rien. Ni même un choix politique dont nous ne savons rien. Mais la seule chose que nous pouvons constater, c'est que dans les documents, dans les sources qui consacrent et témoignent du passage de l'Empire, de la religion solaire à la religion de l'énothéisme à la religion chrétienne du monothéisme, eh bien derrière, vous avez des documents qui nous permettent d'affirmer certaines choses et en tout cas de comprendre qu'à partir de ce moment-là, dans la culture, il y a une autre culture qui se met en place. On peut tout simplement dire ça, sans préjuger qu'il y ait eu conversion ou pas conversion, parce qu'à ce moment-là, on est dans un vocabulaire de quel type ? On est dans un vocabulaire de type apologétique.
Oui, on est dans l'opinion aussi.
On est dans de l'opinion, on est dans du savoir, on est dans je ne sais pas quoi, mais on n'est pas dans de l'histoire.
Oui, clairement.
Le métier de l'historien, c'est pas de supposer, c'est pas de prêter, c'est pas de projeter une idéologie. C'est d'essayer d'être au plus près du réel de l'histoire pour lui faire traverser le temps. Alors en même temps, je ne peux pas dire que Constantin n'a pas choisi le christianisme, parce que d'abord, ça contredirait les documents que j'ai sous les yeux, et puis ensuite, ça marque toute la suite de l'histoire. Ça va ?
Oui, très bien, merci.
Voilà. Par contre, à l'intérieur du christianisme, il y a une relecture chrétienne de l'histoire. Est-ce que vous comprenez la différence ? Est-ce que ça va ? Le cours que je vous fais... C'est pas une relecture chrétienne de l'histoire. C'est une relecture scientifique de l'histoire. Cette relecture scientifique de l'histoire, elle m'amène à vous faire comprendre comment, à l'intérieur de cette manière de faire de l'histoire, il y a eu des regards chrétiens pour penser le christianisme à l'intérieur de l'histoire. Il y a une relecture théologique de l'histoire. Qui n'est pas celle de l'historien scientifique. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ?
Oui, c'est clair.
Voilà.
On peut regarder ce qui s'est passé pour Botero à propos de ses avancées concernant la Syrie et ce qui s'est passé alors qu'il était à l'intérieur, lui, de l'Église et du christianisme et il a été vite et très rapidement mis de côté. Quoi.
Et alors, regardez... vision chrétienne de l'histoire, c'est celle de saint Augustin. D'accord ? Voilà une vision chrétienne de l'histoire. Que l'histoire scientifique que moi je suis en train de vous faire en vous faisant l'histoire du Moyen-Âge, regardez, saint Augustin, il est à la césure de ce monde. Il est à la césure de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la date... de 476. Mais regardez, si on regarde l'histoire du point de vue de saint Augustin, on est dans une autre chronologie déjà. Parce que pour saint Augustin, la relecture de l'histoire, elle est chrétienne. Regardez. Il y a 6 époques qui, pour lui, correspondent à la création, qui vont de la création du monde à la fin du monde. Il parle d'âge. Et en partie, la dernière époque, c'est celle qui a vu la naissance du Christ pour saint Augustin, qui ira jusqu'à la fin du monde. Donc voilà un découpage de l'histoire selon une lecture chrétienne de l'histoire. Et cette lecture chrétienne de l'histoire, regardez, elle est déterminée par l'histoire biblique. Elle comprend l'histoire de l'humanité comme réalisation du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Elle est chrétienne. Ça va, je ne vais pas trop vite ? Et la pensée du Moyen-Âge, augustinienne de l'histoire, ça va ? Pensée augustinienne de l'histoire, ça veut dire que j'utilise saint Augustin. Augustinienne, ça va ? La pensée augustinienne de l'histoire, elle va être très importante pour toute la suite du Moyen-Âge. Regardez les âges augustiniens, puisque saint Augustin, il pense par âge. Déjà, le mot « âge » de saint Augustin, il va m'amener à vous faire comprendre le Moyen-Âge. Parce que je vais m'arrêter là. La suite de l'histoire, ça sera pour la prochaine fois. Et donc, le sixième âge augustinien, c'est celui qui va de la naissance du Christ à nos jours. Je vous remercie.